Bonjour, bienvenue au musée. On est vraiment très heureux de vous accueillir ici avec les Sud. Un grand merci au Sud encore d'avoir choisi de travailler avec nous. Un grand merci je vois Jérôme qui s'en va, mais un grand merci à lui parce que, comme vous l'avez probablement constaté, nous sommes en travaux. Et donc, c'est particulièrement difficile de continuer à faire une programmation culturelle. Et c'était très important pour nous de continuer surtout à accueillir les Sud. Donc, un grand merci à vous, un grand merci à toi et merci.
Merci Romy de nous accueillir. C'est 30 ans, ça fait 30 ans que le musée a ouvert. On fête notre 30e, donc on fête notre triple décade ensemble avec le musée. C'est vraiment un grand plaisir de revenir ici, c'est un moment fort tout le temps d'ouvrir le festival finalement au musée de l'Art Atlantique. Ça a été des moments extrêmement puissants et qui ont toujours marqué les mémoires et des festivaliers et des artistes, parce que c'est pas anodin de jouer et de performer dans des collections et au milieu d'un patrimoine millénaire. Voilà. Donc le salon de musique auquel vous allez assister, je remercie beaucoup Alex de RAGE, la radio, c'est quoi l'acronyme de RAGE déjà, radio des jeunes. Des jeunes et des étudiants, voilà, mais qui est bien plus large que des jeunes et des étudiants, qui émet, toi tu es basé sur Nîmes, il y a aussi une antenne à Avignon, et puis partout en France évidemment, mais ce sont les radios associatives, c'est assez exemplaire de ce qu'est la radio associative. Et bien sûr à Vincent Moon, dont vous verrez la prestation tout à l'heure à 21h30, le live cinéma. C'est un plaisir réellement, je l'ai dit, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure à l'apéro, je le redirai encore ce soir avant la performance, que de l'accueillir, parce que c'est quelqu'un qui a été fondamental dans la construction et dans la redéfinition de la vidéo musicale, il va en parler, et au-delà de ça, dans tout ce qu'il contribue, dans tout ce qu'il apporte, dans sa manière de contribuer à l'élaboration de ce patrimoine commun autour de ces musiques qui nous intéressent, ces musiques vernaculaires, ces musiques si singulières que l'on s'attache à présenter, à promouvoir au sein du festival. Donc on a beaucoup d'artistes finalement en commun qu'il a filmé, qu'on a programmé ou qu'on a programmé, qu'il a filmé. On s'était rencontrés à plusieurs reprises mais on ne l'avait jamais accueilli. Donc là c'est un plaisir que de l'avoir, un honneur. Et de l'avoir aussi, non seulement pour cette performance, pour ce salon, mais pendant 4-5 jours où il va sillonner Arles pour filmer bien des artistes qui ont de cette édition-là. Donc merci encore à toi d'avoir accepté notre invitation. Bon salon à vous et puis à tout à l'heure.
Merci beaucoup.
Bah ouais, merci Stéphane, merci Romy, merci au musée ouais, pour l'accueil, au Sud pour la confiance qui m'est accordée. J'ai mon nom sur l'affiche des Sud, quelle classe, merci beaucoup. Et puis bah, ravi de te rencontrer Vincent.
Pareillement, grand plaisir, on se rencontre vraiment à l'instant.
Ouais, on a essayé d'échanger par téléphone, mais les ondes nous ont causé quelques soucis, mais les 2-3 minutes étaient déjà assez favorables. En tout cas, on a senti qu'il y avait un petit truc qui se jouait. Du coup, une heure à passer ensemble. On vous laissera bien sûr un petit temps en fin de cet échange pour intervenir aussi avec nous et puis poser les questions que j'aurais oubliées. Il y en aura sûrement à Vincent. On te retrouve tout à l'heure du coup à 21h30 pour ce live performance. Entre-temps, on peut peut-être rappeler qu'on peut aller du côté du Muséum Art Latin à 19h30, bien sûr, pour Tartare Elena. Et puis on finira la soirée très certainement ensemble sur la place Voltaire en musique. Mais ça, vous le connaissez, tout est dans les programmes. J'imagine que vous savez déjà tout ça. Peut-être Vincent, pour démarrer, tout simplement, j'aurais bien aimé que tu nous présentes ce qu'on pourra voir ce soir. C'est du live performance et son et musique. Et nous, public, d'après les vidéos que j'ai vues, on sera installés assez confortablement.
J'ai pas trouvé les hamacs encore pour mettre entre les colonnes romaines, mais idéalement, ce sera ce que j'appelle le live cinéma. Ça fait une dizaine d'années, tu vois, que j'ai essayé de m'extirper un peu des formes définitives, pour dire les choses de cette manière-là. Ce qui m'intéresse assez rapidement dans l'esthétique du cinéma, c'est dans ma pratique du cinéma et que j'aime bien appeler cinéma et film, j'utilise à vrai dire aussi rarement le terme de vidéo, qui pour moi en fait ramène à un outil technique en fait qui est pas vraiment qui est, tu tout le cinéma aujourd'hui, il tourne en vidéo quasiment, 95% quasiment. Ce qui m'intéresse, effectivement, ce langage du cinéma. Il y a une dizaine d'années, après avoir un peu écumé quelques festivals de films et montré parfois des films courts, parfois des films longs, j'ai pu faire beaucoup de films longs en fait, dans le passé, j'en fais moins aujourd'hui. J'en ressortais souvent avec une frustration, une immense frustration, à vrai dire, de devoir présenter la même chose tous les soirs et d'aller devant une salle, peut-être dire quelques mots au début, peut-être à la fin, mais entre les deux, je ne pouvais plus rien faire. Quoi. Le truc se déroulait sans ma participation, sans mon interaction, et j'étais terrifié en fait, par ça. Et parce que je regardais le film et je disais non, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible, il faut que je change ça ou ça ou ça ou ça. Et donc j'étais toujours en combat un peu contre l'idée d'avoir terminé, d'avoir fermé, je dirais, tu vois, la narration, d'avoir terminé cette timeline. Et dans un sens, moi, mon esthétique, mon regard, ma recherche sur la musique, elle vient profondément d'un amour de la musique performée, la musique live, beaucoup plus que la musique enregistrée. Et j'ai eu la chance dans ma vingtaine, j'ai grandi à Paris. Et assez rapidement, j'ai trouvé les moyens de m'incruster à plein de concerts avec très peu d'argent. Je sais sauter les barrières, quoi, tu vois. Essayer de circuler pour trouver le nom sur la liste. C'est moi ça. Et du coup, je me suis incrusté dans. J'ai vu beaucoup de concerts entre 20 et 30 ans. Et j'étais profondément informé de ça. Informé dans le sens où mon corps a été même informé de ce rapport physique à la musique. Et Dans ce rapport au cinéma, dans le milieu notamment du festival de films, je pense que j'ai toujours été frustré par ce manque-là de possibilités d'interaction sur le moment, de changement, de diversion, de prendre un angle et de modifier, puisque moi-même je changeais. Alors pourquoi le film il changerait pas avec moi, tu vois? Et du coup, j'ai commencé à évoquer un peu dans mon esprit l'idée de pouvoir trouver une forme. Une technologie, en fait, d'abord. J'ai cherché techniquement dans le monde du VJing pendant quelques années. J'ai tâtonné. Esthétiquement, ce n'était pas du tout mon monde. Donc, je me disais, qu'est-ce que je peux trouver là-bas comme outil que je puisse ramener vers moi, qui puisse me permettre, en fait, de, tous les soirs, recréer quelque chose de différent. Tu vois, parce que j'avais besoin de ce rapport au jeu. Tu vois, parce que, donc, ce soir, je vais jouer. C'est un jeu, pour moi, fascinant. Je redeviens un enfant avec tout un outillage, tout un éventail de possibilités. Et je crée sur le moment avec une technologie très simple, c'est-à-dire que j'ai mon ordinateur, j'ai un petit pad qui me permet de monter en direct. Et au fur et à mesure, j'ai affiné cette technologie-là jusqu'à aujourd'hui. Ce soir, je vous présente du coup une expérience qui va durer 1h15 et quelques, et qui va tisser effectivement entre beaucoup de films courts que j'ai pu faire, qui va essayer de les faire dialoguer ensemble. Très souvent dans l'idée d'essayer de faire des nouveaux assemblages. Quoi, voilà. Et donc j'ai dans mon ordinateur, j'ai environ 1500 films, donc ça fait beaucoup. C'est un peu toute la panoplie, tout l'éventail d'enregistrements que j'ai pu collecter au fur et à mesure des années. Et là, dans cet espace-là d'ouverture, en fait, je suis idéalement en improvisation quasi totale. Parce que mon rapport à la musique, pour en revenir à cela, je pense qu'il s'est beaucoup façonné dans cette possibilité du danger là, sur scène, voir quelqu'un qui était pas certain de là où il allait aller. Ben moi, ça me crée une sorte de, ça me donnait une zone d'empathie en fait. J'étais dans un rapport de, oh là 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 là, lui il sait pas ce qu'il fait là. Oh attends, je vais. Et du coup, ben, tu vois, il y a une attention différente quoi. Et cette attention là, c'est celle là que j'aime essayer de trouver, cet espace où en fait, ben, je vais le présenter, je vais le redire ce soir avant de commencer. Je ne sais pas où on va aller, je ne sais pas exactement ce qu'on va traverser comme paysage sonore et visuel, mais je compte sur vous pour m'y accompagner. Et donc ce rapport-là, il m'excite parce qu'effectivement, chaque soir, je vais tisser quelque chose de différent, je vais repasser par des zones que je connais mieux, d'autres que je connais moins. Ce soir, j'ai prévu de jouer certains films, j'ai prévu parce que j'ai écrit quelques petites notes par rapport notamment à la programmation des Suds. À chaque fois, selon le lieu, selon le fait qu'on est évidemment dans ce musée, j'adapte légèrement. Mais à chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est de jouer des choses que j'ai jamais jouées avant. Ben, on va voir si ça marche. Tu vois. Donc il y a un côté un peu laborantin sur le moment, une sorte de, j'appelle ça un peu ma soupe cosmique, tu vois. Et parce qu'il y a évidemment un rapport au spirituel, un rapport à la transe. Et donc c'est voilà, pour en terminer là-dessus, c'est mon essai sur une idée d'un cinéma de la transe.
Ouais, tu vas même du coup plus loin qu'un artiste musical qui pour le coup a quand même une setlist. Il y a une répétition avant de se produire sur scène. Toi, c'est vraiment ce côté transe qu'on peut retrouver finalement sur tes vidéos, le côté live improvisé des musiciens qui sont plutôt sur un buff et quelque chose qui vient, et de la même manière que des musiciens entre eux peuvent aller dans des endroits qu'ils n'avaient pas imaginé, toi c'est avec le public, t'entends qu'on soit un peu acteur aussi de ce qui se passe du coup
pourquoi
ce
pas
soir.
Si les gens veulent se rouler par terre tout est possible, mais en fait vraiment tout est possible, dans le sens où j'aime beaucoup le trouble, en fait, tu vois, pour revenir à ce qui m'intéresse, c'est que les choses ne se passent pas comme elles sont prévues. J'ai aucun intérêt à faire des choses comme sur un script, quoi. Le plaisir du jeu, et le plaisir, en fait, au-delà du jeu du soir, mais le plaisir de la vie, de ma vie, il est lié à la prise de risque, en fait. Et s'il n'y a pas cette prise de risque-là et cette possibilité que les choses déraillent, on s'embête un peu, quoi. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, oui, d'ouvrir cet espace-là. Et très souvent, j'invite des musiciens aussi à jouer avec moi. Ce ne sera pas le cas ce soir. A priori, qui sait, mais très souvent je fais aussi des collaborations avec des musiciens où, par exemple, cette forme du live cinéma, elle a un aspect parfois très site spécifique, comme je le dis, c'est-à-dire qu'elle elle s'inscrit dans un lieu. Par exemple, il y a eu un petit mois, j'étais à Malte. J'ai été invité pour un festival, sur deux semaines, j'ai fait une création, c'est-à-dire que j'ai passé 10 jours à travers tous les coins de Malte, qui est comme tout petit, en fait, Malte. Et puis, on m'a introduit dans tous les cercles de musique maltais, et j'ai collecté, j'ai fait toute une série de films courts, mais ces films-là, je les ai utilisés dans une performance finale, où, en fait, la performance qui a duré 1h30, elle était composée que de ces nouveaux enregistrements, et elle a été aussi accompagnée, surtout, de tous les gens, enfin, en tout cas, une grande partie des gens qui étaient à l'image. Donc, c'est-à-dire que les gens qui étaient à l'image, tout d'un coup, me rejoignaient sur scène, qui n'est pas vraiment une scène, d'ailleurs, je suis souvent au milieu du public. Et dans ce rapport-là de trouble, en fait, d'effet miroir, dans cet échange. Et évidemment, cette performance-là était unique à Malte et je ne la referai jamais, tu vois. Mais j'aime beaucoup cette idée-là, quoi. Voilà, ce qui se passe ce soir, ouvrez bien les yeux et les oreilles, parce qu'en gros, ça ne se repassera pas. Voilà.
Trop bien. Des moments uniques à chaque fois qui te font parcourir la planète. S'il était besoin de ça pour toi, de parcourir la planète, mais j'ai vu que tu iras notamment au Japon, Thaïlande, Vietnam, dans pas longtemps.
Ouais. Je vais renaviguer au Japon, je vais réexplorer, enfin je continue. Mais je vis en tant que nomade, en fait. C'est vrai que c'est quelque chose qui est important dans ma pratique, c'est que depuis 20 ans, j'ai plus de maison. J'ai décidé de simplifier, en fait, ma vie en ayant tout ce qu'il me faut, donc vêtements compris, qui tiennent dans deux sacs. Et avec deux sacs, en fait, effectivement, ça me laisse une grande liberté de mouvement, et je suis du coup tout le temps dans la rencontre, parce que quand tu es dans une cellule telle, pour certains, on dirait peut-être vulnérabilité finalement matérielle, tu es obligé de rencontrer, tu n'as pas le choix. Donc tu es là en rencontre et tu es constamment dans l'échange, et du coup je suis logé ici à droite à gauche, permanence, mais je n'ai pas de base fixe du tout. Voilà.
Et du coup, tu as quand même un petit peu de matériel qui t'accompagne
fois. J'ai une valise de matériel, ouais. Une belle caméra, une vieille caméra un peu qui a du cachet, tu vois, c'est une caméra Panasonic P2 qui m'est très très cher. C'est un peu le même modèle avec lequel je travaille depuis une quinzaine d'années, ce qui d'ailleurs donne une cohérence esthétique. En fait, il y a aussi cette idée de créer un fil continu qui nous permette de perdre l'espace et le temps, enfin surtout le temps, c'est-à-dire qu'un film fait hier ou un film fait il y a 15 ans vont commencer à se marier, à s'entremêler, puisqu'on est dans les mêmes tonalités, dans les mêmes grains. Enfin, je viens d'un rapport très très formel aussi, tu vois, très très visuel. Je viens de la photographie, et je l'évoquais un peu plus tôt à l'apéro. Arles, j'ai d'abord connu Arles en venant à peine 20 ans et en accrochant mes photos sur des murs, tu vois, et se décrocher dans la nuit. Mais il y avait cette idée je viens de ce rapport à la forme, à une recherche qui vient. Enfin, mon école, c'est l'école du photoreportage, de la photo de guerre, de Kudelka, de William Klein, de Robert Frank, de tous ces noms-là. Et J'ai cru voir qu'il y avait d'ailleurs une exposition, une photographe que je mentionne, parce que je crois qu'il y a une exposition d'elle, de Claudia Andujar, en ce moment, à Arles. Je suis une immense fan de Claudia Andujar. Elle a fait un travail sur les Yanomami dans les années 70 au Brésil, qui a, à mon avis, probablement le plus beau travail que j'ai jamais vu sur une tribu indigène. C'est extraordinaire. Je crois qu'il y a quelque chose d'elle qui est exposé à Arles en ce moment, c'est ça ? Ouais. Et voilà. Je viens vraiment de ce monde-là. Et du coup, j'ai essayé de l'appliquer effectivement à une recherche filmique et sonore. Quoi, voilà.
Mais c'est ça qui est étonnant, je trouve, aussi dans ton travail. Effectivement, tu démarres avec la photo, mais tu arrives très vite sur de l'image animée, alors que la photo est a priori un temps fixe qui bougera plus pour le reste du temps. Mais déjà, dans ton travail photographique du début, il y a beaucoup de travail de mouvement. J'ai pu voir notamment ce que tu avais fait quand tu étais à Paris, justement, sur les soirées. Oui. Déjà, c'est des séries sur quelques secondes, j'imagine, qui fixent un temps et un endroit, même si on ne sait pas forcément où c'est, mais il y avait déjà cette idée de mouvement qui était présent.
En fait, d'ailleurs, la personne la plus proche que je puisse citer, et puis pour pas en rajouter dans les citations, mais c'est Antoine D'Agata. Parce qu'Antoine D'Agata était mon prof de photo quand j'avais 20 ans. Il m'a profondément marqué, évidemment. Et déjà, les images de D'Agata, elles étaient mouvantes. Elles échappaient à chaque fois, tu vois. Elles étaient une sorte de mystère de ce mouvement, ces corps qui devenaient quasi animaux. Et je viens beaucoup de ça. Et par rapport à ce que tu disais sur la fixation de l'image, Il y a cette très belle citation qui dit de Hakim Bey, un penseur américain, qui disait « Every recording is a tombstone of a live performance. » Tout enregistrement est la pierre tombale d'une performance vivante. Et je pense qu'effectivement, j'aime questionner le monde dans lequel on est sous ce regard d'ultra-nostalgie, en fait. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est justement attiré par le passé. Plus en plus, on a accumulé tellement d'enregistrements que ces enregistrements-là, je dirais, nous tirent en arrière, quoi, dans une sorte de rapport assez mortifère à notre histoire, quand même. Et je pense que j'ai voulu effectivement m'extirper de ça, et donc d'où l'idée, effectivement, du live cinéma comme mouvement constant, mouvement permanent. Rien ne s'arrête, rien ne s'arrête, rien ne s'arrête.
C'est très dense tout ce que tu dis. Je vais essayer de démêler
Pardon,
tout ça, mais
non, non, je parle hyper vite en plus. Vous voyez, je parle plus lentement, ça va très... Je parle assez rarement. Ouais, tu m'as dit oui. Non, je parle assez rarement en français aussi, donc je suis hyper content. Quoi, tu vois, c'est beaucoup plus simple. Je parle très très mal plein de langues, hein, mais en français, voilà, j'ai pu utiliser un peu des mots que je n'utilise pas dans d'autres parce que je ne les connais pas.
Alors, grâce à Aude, on enregistre aussi ce moment qu'on pourra retrouver en audio et puis peut-être avec toi, du coup, en film, bien sûr. Tu n'as pas pu t'empêcher de lancer un enregistrement. De quoi parlait-on à l'instant? Donc, un propos voilà, très dense. Tu parles de plein de choses, effectivement. Si par rapport à cette pierre tombale qui est le film, l'image fixe ou fixée, est-ce que ton travail de la blogothèque, tu le compares à justement quelque chose de pierre tombale, le fait de fixer des temps de live comme c'était le cas avec la blogothèque et les concerts à emporter?
Moi, je dirais que ce que je faisais avec la blogothèque, pour ceux qui ne savent pas, j'avais il y a presque 20 ans déjà, avec un ami, Christophe Kreid, qui lui avait un blog. Donc ceux qui s'en souviennent, dans le milieu années 2000, il y avait plein de blogs musicaux. C'était un peu, pour beaucoup, une manière de découvrir des musiques. On allait taper à la porte de quelqu'un. Il y avait quelque chose d'hyper intime dans ce rapport-là. Et il y avait ce blog qui s'appelait la Blogothèque. Et ce jeune homme, Christophe, que je croisais régulièrement en concert à Paris. Et lui m'a proposé un concert. Il voyait que je faisais beaucoup d'images, d'abord photos, je commençais à faire des petits clips, je cherchais en fait quelque chose, une manière de raconter la musique différemment. Et lui m'a proposé de faire un projet avec moi, un projet ensemble qu'il avait appelé Les concerts à emporter. Et du coup, on a commencé à faire toute une série de films qui étaient en fait très simplement aller filmer des musiciens, principalement tout d'abord dans un univers qu'on appellera indie, rock, indie pop de l'époque. Et c'est toute une période aussi où il y a un ensemble de musiciens assez incroyables qu'on découvrait. Il y avait The National, il y avait Beirut, il y avait Grizzly Bear, il y avait Arcade Fire. Et tous ces groupes-là qui commençaient à émerger, ils avaient une sorte de fraîcheur qu'on voulait capturer. Et donc ils passaient par Paris, j'étais principalement à Paris à l'époque. Et l'espace d'un après-midi, en fait l'espace d'une heure, parfois même moins, on partait avec eux dans les rues et puis on faisait un enregistrement. Comme ça, à l'arraché. Vraiment à l'arraché. Je n'ose pas trop regarder les premiers films. C'était, voilà, il y avait un côté hyper punk, quoi. Et hyper frais, en fait, notamment pour ces groupes-là qui n'étaient pas du tout habitués à être filmés de cette manière-là. À l'époque, en fait, il n'y avait pas vraiment de propositions filmiques comme ça. YouTube avait à peine un an, quoi. C'était vraiment, il n'y avait aucune même forme de création pensée vraiment pour le web à l'époque. Et nous, on s'est lancé dedans. On a commencé à accumuler énormément de rencontres de cette manière-là et à filmer ces petites sessions. Et avec, voilà, avec toujours une même esthétique, caméra au point, plan séquence, une prise ou deux ou trois grand maximum, mais en fait on n'était pas du tout dans la volonté de perfectionner quelque chose, quoi. Et justement, mais jamais dans la projection, qui est un très joli mot à triturer, la projection, tu vois, parce qu'évidemment ce soir je vais projeter des images, mais comment tu projettes des images sans les projeter dans ta tête, tu vois, en amont, quoi. Et du coup ma pratique de cinéma, elle est basée justement sur cette volonté de ne pas projeter les choses dans mon esprit en amont, de garder cette fraîcheur là de la rencontre, tu vois.
Ouais, le plaisir de l'instant.
Plaisir de l'instant, et voilà. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ces films-là, la Blogothèque, en fait, si tu veux, j'ai continué dans la même esthétique. Je fais à peu près les mêmes films aujourd'hui, quoi. Tu vois, toujours dans ce même rapport au monde, quoi.
Avec tout ça, ben justement, tu es allé vers d'autres aventures qui t'amènent à travers toute la planète. Peut-être avant ça, avant d'aller vers Petite Planète, j'avais une question sur Arcade Fire, précisément, que tu as filmé dans le cadre de la Blogothèque aussi, qui est pareil, un groupe de rock assez réputé, que tu avais filmé à l'Olympia. On les voit d'abord dans un ascenseur et puis ensuite sur un premier titre dans la foule. Même le moment encore à regarder aujourd'hui m'a mis la chair de poule. Et sur ton site vincentmoon.com, où on retrouve l'ensemble quasiment de tes propositions, bien sûr, en venant de Nîmes, je suis allé regarder sur Nîmes, où il y a une vidéo qui n'existe pas encore et qui n'est pas en accès, qui est Histoire de feu, a film about the Arcade Fire.
Ceci, il existe, ce film, il est en lien privé, je te l'envoie. Il a été interdit, en fait, ce film. Il a été interdit par le groupe, mais on sait un peu, on a eu l'histoire, c'est un peu, comment dire, c'est intéressant l'histoire avec Arcade Fire, c'est-à-dire qu'à un moment...
Il y a des droits, il y a les majors qui sont venus un peu interférer.
Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait ce premier film, ce concert emporté avec Arcade Fire à l'Olympia. C'était déjà, ça fait déjà peut-être un an qu'on faisait des concerts emportés, et Arcade Fire avait été très important dans l'idée, dans le concept même, de retrouver ce rapport d'intimité, parce que le premier concert qu'il joue à Paris, c'était au Nouveau Casino, une petite salle rue Oberkampf, et à la fin du concert, ils descendent de scène, ils traversent la foule et ils vont jouer dans la rue, en continuant, en forme, en procession, quoi. Et on est resté estomaqué, quoi. On n'avait jamais vu un truc pareil, quoi. Et tout d'un coup, là, il s'est joué quelque chose. Mais c'est ce rapport-là, la musique que nous on aime, en fait, cette proximité-là, tu vois, descendez de scène, tu vois. Et donc, en fait, ça a vraiment beaucoup, beaucoup alimenté notre manière d'aborder les groupes ensuite, tu vois. Donc, Arcade Fire était un peu resté ce groupe qu'on rêvait de filmer. Donc, un an plus tard, avoir commencé, finalement, ils reviennent à Paris. Là, c'est donc où c'est l'Olympia. Et on fait un film assez spécial, assez merveilleux, où le début du concert, en fait, on les suit en loge, on joue entre nous un morceau dans un ascenseur, et puis après, ils rentrent par une porte dérobée, et ils se retrouvent au milieu de la foule, d'emblée. Enfin, en gros, on avait commencé par la fin, tu vois. Et ce qui est toujours intéressant, il faudrait toujours commencer par la fin, ça nous permet de revoir l'histoire dans un autre sens. Ensuite, du coup, ils m'invitent en tournée avec eux, en gros. Ils m'invitent à tourner avec eux en Europe et puis aux États-Unis. Et puis, les histoires se compliquent pour l'histoire de management, en fait, où, en gros, je perds la main sur le montage, je perds la main complètement sur la direction. Et le management me menace. Enfin, ça prend même une tournure médiatique délirante. Et ça a été pour moi une brisure avec le monde de... ce qu'on appellera l'industrie musicale. C'est là où j'ai fait un pas de côté. Je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire, de me retrouver dans ce rapport-là, de pouvoir. Et je voulais juste rencontrer des gens qui faisaient de la musique et continuer à les filmer. Et ce moment où je suis parti en fait en mode nomade, où j'ai pris mes clics et mes claques, et j'ai tout quitté. Et je suis parti en fait en voyage. J'ai commencé à voyager, à rencontrer des musiques locales. Ce que je n'imaginais pas du tout, j'avais aucune formation anthropologique notamment. Mais je me suis retrouvé à aller aux quatre coins du monde et à m'intéresser de plus en plus à quelles sont les musiques qui sont faites ici. Et je me suis rendu compte qu'elles étaient beaucoup plus intéressantes à documenter que ces musiques qui étaient déjà très médiatisées. Je me suis pris un peu dans l'idée d'aller documenter, d'aller mettre sur la carte en fait des musiques méconnues, des musiques dites traditionnelles, mais en fait je me suis vite rendu compte que ce n'était pas traditionnel en sens où elles n'appartenaient pas au passé, elles appartenaient au présent d'énormément de communautés, et que là j'ai pris un immense plaisir à découvrir ces mondes-là, parce qu'en plus ces musiques-là, non seulement je les trouvais rares, mais aussi folles, complètement folles, voire extraordinairement expérimentales. Et du coup là c'est un peu, ça a été un moment où j'ai un peu de bascule pour moi quoi. Et le film qui est sur la carte anime, ouais, c'est en fait cette version là, c'est ma version du film qu'on a fait avec Arcade Fire. Très avec bien. Une scène mémorable filmée dans les arènes de Nîmes notamment, extraordinaire.
Ouais, j'imaginais bien que c'était pour ça. Encore plein de choses que tu évoques qui sont vraiment riches, denses. Déjà, ce que tu évoquais sur l'arrivée de la blogothèque à voilà, un an de YouTube, tu as toujours été aussi quelqu'un qui a quasiment milité pour cet Internet qui soit ouvert, accessible, gratuit. C'est un truc indispensable pour toi que tes œuvres soient accessibles et qu'on puisse avoir un accès sans apport financier forcément.
C'est vrai, assez rapidement, voire dès le début, je me suis intéressé aux licences libres, ou en tout cas à la non-propriété. Je suis très anti-propriétaire. Je pense qu'effectivement, s'il y a bien un des éléments au cœur de notre crise sociétale aujourd'hui, c'est la propriété. J'en reviens à des basiques en fait, des choses très intéressantes et très, très ancestrales. Comment la propriété émane aujourd'hui historiquement dans nos sociétés? Pourquoi en fait tout d'un coup on se retrouve à être privé d'un accès à un espace? Pourquoi on se retrouve privé d'avoir accès à notamment à toute forme d'enregistrement ou de partage culturel? Et donc j'ai toujours dès le début voulu mettre ça sortir de ça, de ces copyrights qui sont en fait des formes très récentes, qui ont vraiment émergé au XXe siècle principalement. Et donc je me suis intéressé à la culture du copyleft, qui est à la racine en fait, qui est dans l'ADN même de ce qu'est la culture Internet. Ça nous paraît très très loin aujourd'hui, hein. Faut voir où on est parti, hein. C'est radicalement. Mais à un moment, il y a 20 ans, c'était encore clairement une destinée possible. Et je me suis toujours tenu à ça et j'ai toujours tenu bon cap. Donc tout mon travail est sous licence Creative Commons, spécifiquement sous licence by NCSA. Donc c'est des terminologies très spécifiques qui permettent en fait l'utilisation de ces enregistrements-là dans un cadre non commercial et tout cela. Mais ce qui fait aussi que je ne vends aucun de ces films, je ne vends pas les films. Ils sont diffusés gratuitement ici ou là, et j'essaie de faire de l'argent autrement, principalement en fait, effectivement, quand je fais des performances aujourd'hui de live cinéma.
Et donc du coup tu évoquais ce départ nomade déjà il y a une vingtaine d'années après le cas Arcade Fire, pour le dire comme ça, vers des cultures. Est-ce que ce qui t'a intéressé dans ces voyages là c'était de perdre peut-être le côté civilisationnel et ce poids de l'histoire qu'on peut avoir nous dans les cultures occidentales? Bon, alors le dire dans le musée bleu, c'est pas rien, parce qu'il y a quelques trucs qui ont un peu plus de 2000 ans d'histoire, mais c'était d'aller vers des cultures et des traditions qui n'étaient pas ancrées comme ça, qui n'avaient pas un poids millénaire derrière elles, quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus oral et plus humain peut-être du coup aussi.
Je pense que tout de suite, ce que j'ai retrouvé dans ces musiques-là, la manière dont elles étaient jouées, elles étaient évidemment, ça paraît un peu grossier de dire comme ça, mais elles étaient participatives, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette séparation-là que j'avais vue dans la manière dont on présentait les musiques dans les contextes plus occidentaux. À quel point l'architecture d'un lieu contamine forcément le rapport à la création dans ce lieu-là, quoi. À quel point les lignes d'une salle de spectacle, la rectangularité de l'espace. Ce sont des espaces où les lignes sont ultra présentes, quoi. Et au fur et à mesure de mes voyages, effectivement, dans des endroits où dont j'avais vraiment assez peu d'idées, que ce soit au fin fond de l'Amazonie ou dans le sud-est asiatique. Je me suis rendu compte que c'était surtout la circularité, je dirais, des savoirs, elle était inscrite dans l'architecture des lieux. Elle était inscrite dans l'architecture, dans l'espace, dans la manière dont les gens prenaient un espace, tu vois. Et donc c'est ça qui m'intéressait, c'était que tout d'un coup, la courbe d'un espace conditionnait complètement le rapport dont on pouvait s'en emparer de cet objet-là, de cette action, de cette expérience, tu vois. Et donc c'est ça qui m'a intéressé de documenter. Du coup, c'est pour ça que j'ai assez rapidement plongé vers ce qu'on pourrait appeler des cérémonies ou des rituels, où là, tout d'un coup, moi, j'ai grandi, même si je ne suis pas baptisé, je n'ai pas été vraiment à l'église en grandissant, mais ce sont des lieux extraordinairement linéaires, tu vois. Et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte à quel point cette linéarité-là, qui s'inscrivait aussi dans une compréhension de la linéarité du temps, cette idée du progrès, en fait, elle était déjouée à partir du moment où l'espace, tout d'un coup, reprenait une courbe. Tu vois ? Et donc, dans les cérémonies que j'allais voir, les cérémonies de transe, que j'ai passé beaucoup de temps au Brésil notamment, j'ai fait un grand projet au Brésil sur 4 ans qui s'appelle Hybridos, les esprits du Brésil. C'était un projet extrêmement important pour moi. On l'avait fait avec ma compagne à l'époque, Priscilla. Vous pouvez voir ça sur mon site hybridos.cc, hybridos.cc. C'est une longue recherche sur quasiment une centaine de cérémonies à travers le Brésil, et principalement sur la circularité dans l'espace des corps. Tu vois, comment des corps peuvent se mouvoir dans un rapport où il n'y a plus une ligne, il y a peut-être un point central qu'on appellera, si tu vois, cet retour à cet arbre de vie central, quoi. Et que c'est dans ce rapport-là que je me suis dit, ah, mais c'est exactement ce que je cherchais, en fait, mais ma pensée anarchiste, elle est complètement intégrée à ce rapport spirituel-là. Et du coup, voilà, c'est comme ça que je me suis rendu compte à quel point souvent les pensées indigènes avaient été profondément, en fait, anarchistes, sans qu'on les désigne de cette manière-là, puisqu'on a désigné les... je fais des raccourcis très rapides, hein, désolé, mais la pensée anarchiste telle qu'on l'évoque à partir du 19e siècle principalement, on a du mal à comprendre, enfin parfois on oublie à quel point elle préexiste largement, ces concepts-là, et que l'organisation tribale déjà énormément dans l'histoire s'était basée sur une organisation qui permettait d'échapper à ce rapport de pouvoir et donc de permettre une circularité des savoirs, des matières différentes, tu vois.
Pour pas faire peur aux gens, on peut peut-être définir l'anarchie comme absence de pouvoir, mais pas absence de règles.
Oui, exactement. Une absence de hiérarchie claire, et en tout cas une je dirais, ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée cyclique d'une société, comment elle se réorganise. J'ai une dernière référence là-dessus, mais c'est ce bouquin merveilleux que j'ai lu l'année dernière, qui a un très mauvais titre en français, qui s'appelle Au commencement était 3 points, qui s'appelle The Dawn of Everything, de David Graeber et David Wengrow, qui est un bouquin 600 pages exceptionnel, qui réexplore en fait justement notre manière d'être, de former les sociétés, et qui notamment évoque une idée qui nous paraît folle aujourd'hui, mais à quel point les sociétés étaient cycliques, et cycliquement elles se réorganisaient 6 mois par an, elles fonctionnaient de telle manière, avec un roi, 6 mois par an elles étaient devenues anarchistes, selon les conditions. En gros, ce qui m'intéresse là, c'est la compréhension de la souplesse, comment tu t'adaptes, finalement c'est la question de l'adaptation qui est au cœur de cela, tu vois, et c'est vraiment ça au fur et à mesure, à travers finalement ma recherche sur la musique, sur la manière dont la musique circule, en fait ce qui m'a intéressé, c'est comment en fait une société s'adapte constamment et apte à prendre une direction nouvelle selon le temps qu'il fait, tu vois, ce qui n'est pas du tout, plus du tout malheureusement, le cas de nos sociétés modernes.
Est-ce que du coup, avec ce travail-là, et aujourd'hui peut-être aussi la capacité on parle d'anarchie, donc je peux dire du grand capital, à aller dans des territoires les plus reculés, peut-être que dans des contrées lointaines, tout le monde boit du coca, a un smartphone, est-ce que t'envisages ton travail du coup aussi comme quelque chose de quasiment documentaire, et pour le coup, de pouvoir fixer quelque chose qui risque de disparaître ?
Ça, je le laisse aux autres, peut-être dans leur utilisation qu'ils peuvent faire de ces archives, tu vois. Effectivement, beaucoup de gens me disent, ah, merveilleux ce travail que tu fais, ces choses-là sont en train de disparaître, il faut les préserver de cette manière-là. Peut-être, Peut-être. Je pense que, à mon avis, rien ne disparaît vraiment, notamment aujourd'hui. C'est pas moi, petit cinéaste, qui va aller aux quatre coins du monde, qui va sauvegarder ces cultures-là. Notamment, et comme tu le disais, l'un des aspects très intéressants et très positifs finalement de cette dimension technologique aujourd'hui, c'est que tout le monde enregistre, en fait. Donc tout le monde enregistre tout le temps, partout, hein, c'est devenu assez délirant. Donc, c'est une problématique, mais c'est aussi effectivement l'idée qu'en fait, on pourra retrouver peut-être trace du coup de cela d'ici quelques temps, et il suffira d'aller plonger dedans. Mon travail, je pense qu'il se situe effectivement à une certaine volonté de, un peu de une certaine critique d'une de ces séparations culturelles et volonté de essayer de rendre, notamment à travers la forme du live cinéma, peut-être une remettre en place une sorte de cohésion étrange entre toutes ces cultures différentes et essayer d'évoquer des possibles nouveaux horizons imaginaires, enfin, à chacun de s'en emparer, quoi, tu vois.
Du coup, toi, comment tu envisages ton nomadisme, comment est-ce que ton voyage se fait? Est-ce que c'est des propositions qu'on te fait, des envies que tu as d'aller vers certains endroits de la planète? Il y en a peut-être certains que tu n'as pas encore explorés et que tu aimerais bien aller voir.
Oui, bien sûr. C'est beaucoup mon désir, effectivement, d'aller explorer des coins. Je trouve moyen de trouver quelques contacts locaux, que ce soit par exemple un label de musique qui va m'ouvrir à toute une scène musicale dans tel pays, ou simplement quelqu'un qui va pouvoir m'accompagner quelque temps dans son propre paysage et à la fois le redécouvrir à mes côtés. Donc j'essaie de trouver juste effectivement un équilibre de cette manière-là, tout en gardant une grande liberté de mouvement et de production, quoi. C'est-à-dire que jamais je n'écris des projets en amont, jamais je dépose de dossier ou je cherche d'aide du CNC. J'aime bien faire les choses très directement, avec peu, et dans un contact très direct avec les gens. Donc très souvent, oui, je pars bille en tête en me disant, je sens qu'il faut que j'aille dans ce coin-là du monde et j'essaie de trouver une manière d'y arriver, quoi. Ouais.
C'est un fonctionnement qui n'est pas habituel, celui-là, de quasiment instinctif, en fait. Tu as toujours été là où tu sentais un besoin et une envie, ou comme pour revenir sur Arcade Fire, un besoin de rupture avec certaines choses. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à des jeunes gens qui se lancent dans la vie? Est-ce que cette rupture-là est bonne? Est-ce qu'il y a des travers à éviter? Ou est-ce qu'on peut se lancer avec son instinct, son envie?
Ben, je pense évidemment il faut le faire, mais surtout qu'aujourd'hui on est dans un tel rapport d'intellectualisation du tout, d'analyse, de suranalyse avant un moment d'action, que je dirais, tentons d'agir et voyons où cette action-là nous amène, quoi. Absolument. Et ce que j'ai essayé de montrer, enfin ce que j'ai expérimenté à ma propre personne, c'est comment faire autant avec très très peu. J'ai toujours voulu garder ce rapport d'intimité avec les gens que je rencontrais, et cela s'est basé sur le fait de travailler avec peu d'argent, avec peu de moyens, avec parfois peu d'idées. mais je pense que dans ce rapport-là, il y a une connexion qui se fait, qui est différente que, évidemment, le fait de prévoir une écriture documentaire et parfois un an ou deux à l'avance, et du coup, encore une fois, de projeter finalement des idées qui ensuite, en gros, tu projettes à quelques temps, un an ou deux à l'avant, et puis en gros, tu vas tout faire pour arriver à ça. Et sauf qu'en fait, entre-temps, il va se passer plein de trucs qui vont te rendre un peu frustré, tu vas faire « oh là là, j'arrive pas du tout », et c'est difficile en fait de lâcher quelque chose que l'on conçoit, que l'on conceptualise tellement dans notre esprit, tu vois. Donc j'essaie de prendre une approche inverse, tu vois, d'être dans l'instinct, dans le moment, dans l'instant, dans la rencontre et dans l'improvisation. Et voilà. Et du coup, mes films sont beaucoup faits comme ça. Donc comme tu disais, quelque chose m'amène dans un coin du monde, mais dans ce coin-là du monde, je vais me laisser aller aux rencontres, et sur 3 semaines, sur 3 mois peut-être, je vais voir qu'est-ce qui m'attire, tu vois, sur le moment, sans y avoir trop réfléchi en avant. Il y a un certain bagage de préparation en amont, mais qui ne doit surtout pas trop prendre le dessus, quoi, tu vois ce que je dirais.
Ouais, c'est ce que j'allais te demander, du coup, parce que arrives dans un endroit qui t'intéresse, tu croises des gens, il y a de la musique ou je ne sais quoi, t'entends parler d'eux, tu vas voir, tu rencontres les gens. Et du coup, est-ce qu'il y a une mise en scène? Du coup, tu vois un truc, tu as envie de le reprendre, mais sans qu'il y ait une mise en scène, je veux dire, mais comment est-ce que tu fais pour dire aux gens, est-ce que j'aimerais vous filmer, est-ce que vous êtes d'accord? Et dans quelle mesure est-ce que ça... tu arrives à garder l'essence même de ce que tu vois et de ce que tu as envie de capter d'instant présent?
Ça prend, c'est toujours très différent, en fait, je t'avoue. Tu vois, chaque situation est très différente. Après, j'explique très clairement ce que je fais, ce que je vais faire de cette matière-là. Tous les films que je fais, évidemment, avant tout, je les donne aux gens. Et surtout, on me posait la question un peu plus tôt aujourd'hui, s'il y avait des problèmes, si parfois j'utilisais des films sans que les gens soient d'accord. Jamais ça me passerait par la tête. T'imagines bien qu'il y a un processus d'échange, notamment de montage, on voit différents montages. En fait, ce que je fais, par exemple, imaginons, je fais une session avec un groupe de musique en Indonésie et je vais leur envoyer un montage de l'entièreté de la session sur un lien privé qu'ensuite vont regarder et puis on va discuter quels sont les meilleurs morceaux, qu'est-ce que vous voulez garder de ça, celui-là, celui-là, on en garde 3, on en garde 2, on en garde 1, on en garde rien. Et selon cet échange-là, en fait, je vais façonner un film final que je vais leur renvoyer. Si tout le monde est d'accord, on va le publier ensuite. Tu vois. Ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde puisse, que ces gens-là puissent toujours avoir accès à la matière première aussi. Tu vois, qu'ils puissent la télécharger. Donc, aujourd'hui, c'est devenu très facile. Il y a 15 ans, c'était plus compliqué, évidemment. Quoi, tu vois, c'est plus compliqué, notamment, de garder le contact avec les gens. Tu vois. Donc, aujourd'hui, il y a cette facilité-là. C'est presque trop facile, en une seconde, d'être en contact via WhatsApp, d'ailleurs, ou ces outils-là. Mais ça permet, effectivement, ce rapport de réactif très direct avec tous ces gens que je peux enregistrer. Quoi. Et donc, voilà, il y a un peu... Donc, s'il y a une idée de mémoire, c'est d'abord, je pense, une mémoire personnelle, l'idée de... une sorte d'un photographe de village, tu vois, qui irait d'une maison en maison, qui se ferait offrir le gîte et le souper, et qui en échange donnerait, tu vois, une image de famille qui restera d'une manière ou d'une autre pour eux, quoi.
Le troubadour de l'image, trop bien. Aujourd'hui, là, sur Petite Planète, il y a quasiment 1300 films en accès libre. N'hésitez pas, encore une fois, vincentmoon.com pour y avoir accès. Est-ce qu'il y a des données, des images qui ne sont pas disponibles, qui ne le seront jamais, ou est-ce qu'à chaque fois que tu as une matière, tu arrives à en faire quelque chose, ou il y a des choses qui seront encore une fois perdues à jamais?
Il y a très peu de choses que je n'ai pas publiées, effectivement. J'ai toujours réussi à faire quelque chose de très peu, parfois. Vraiment, j'ai des histoires assez rocambolesques là-dessus. Quoi. Mais ce qui m'intéressait, c'est qu'en fait, finalement, ça m'amène dans des recoins expérimentaux. Tu vois. Comment tu fais quand tu as aussi peu de choses, tu vois. Je m'étais retrouvé notamment au Pérou à faire la procession de Coiluriti, qui se trouve dans les Andes péruviennes, une fois par an, grande procession ancestrale. Et en fait, arrivé là-haut, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout équipé comme il le fallait. J'ai failli mourir de froid le premier soir. Et je fais, ah non, là, je ne vais pas du tout arriver à faire un film. Quoi. J'avais juste réussi à faire une pièce sonore. J'avais réussi le premier soir à me balader avec mes micros et à enregistrer des sons. Quoi. Et en redescendant, vraiment dépité, échec total, il y avait des gars qui vendaient des DVD à l'époque, des années précédentes, tu vois. Une sorte de truc vraiment vidéo amateur, assez trash et vraiment super intéressant. Et j'avais commencé à acheter ça sur le chemin, tu vois. Et je rentre à la maison, je mate les trucs. C'est vachement intéressant cette matière, quoi. Donc j'ai commencé à retriturer des images, tu vois, à accentuer le grain, travailler sur la forme, à coller ma bande sonore dessus. Et ça, c'est j'en ai fait un film, tu vois. Voilà. Donc en fait, tout est matière à exploration. De cette manière-là, quoi. Et après, aujourd'hui, j'ai une autre problématique qui est qu'effectivement, j'ai fait beaucoup de films et je continue à en faire. Et du coup, il y a une problématique de montage. Et donc, j'ai parfois pas le temps de. J'ai quelques films, 200, 250 qui ne sont pas terminés, quoi. Mais ça viendra. Voilà. Donc je cherche de l'aide, si quelqu'un, si parmi vous il y a des monteuses, des monteurs, venez me voir à la fin, quoi. Ah, j'ai vu une main, c'est des... voilà. Enfin, bref, ce sera avec plaisir, quoi. J'aime beaucoup, voilà, cette idée de collaboration, là, quoi, tu vois. Voilà. Mais au fur et à mesure où j'essaie de terminer ces films-là et les publier. Mais après la publication, aujourd'hui, effectivement, j'ai un peu... comment dire ? Ce qui m'intéresse, c'est le rapport collectif plus que jamais dans un espace, tu vois. Ce qui est intéressant aujourd'hui, ce qui est même passionnant et dramatiquement passionnant, c'est comment tu rassembles des corps dans un espace. Et à l'ère de la machine, à l'ère de cette surabondance d'images, cette surabondance évidemment d'intelligence artificielle qui vient avec, se pose vraiment la question de faire des images. Quel intérêt de faire des images aujourd'hui ? Quel intérêt de coller encore plus de gens dans les écrans, tu vois ? Donc j'ai beau faire beaucoup de films, la question on se dit, mais et tout ça pourquoi en fait ? Pour que les gens passent encore plus de temps dans les écrans, c'est un peu dramatique, tu vois, comme solution. Et du coup, effectivement, j'ai beaucoup de cette matière-là, j'utilise principalement pour les live cinéma ou pour des installations, pour en tout cas qu'on ait un autre rapport effectivement à ces images. Donc voilà, je publie un peu moins aujourd'hui, je vais voir comment ça se déroule dans les temps à venir.
Et du coup, pour faire la boucle peut-être avec ce qu'on verra ce soir, la musique de tes lives sont celles des bandes de son
Oui, carrément. Ce que je fais quand je joue en live, en fait, simplement, je joue jusqu'à 4 films à la fois. Et donc, j'ai un fader, comme on dit, pour le son et pour l'image de chaque film. Donc en fait, tous les sons viennent de tous les films, quoi, voilà. Mais sauf que je peux mettre le son d'un film et l'image d'un autre, et vice-versa. Ou alors 4 images d'un film, aucun son. Ou alors 4 sons, aucune image. Enfin voilà, les possibilités sont un peu infinies, quoi. Mais tout est évidemment lié au film originel, quoi.
Vincent, merci.
Ça va,
ouais. Bah ouais, très bien, très bien.
C'était un flow d'idées comme ça.
Non, mais très bien. Moi, j'ai posé une question, t'en as répondu à 4 que j'avais préparées, donc parfait pour moi. Si tu veux, je voulais évoquer avec toi peut-être la question de la solitude, quelque part, parce que finalement, à rencontrer peut-être plein de gens comme ça, on reste quelque part un petit peu seul aussi. Il y a un moment où on se sent isolé ou en manque d'ancrage humain ou pas.
C'est une question très très longue à répondre, celle-là. Je dirais que c'est une solitude bien entourée, c'est certain. C'est-à-dire que je ne suis jamais vraiment seul, je suis constamment avec des gens. Ce qui est intéressant, c'est évidemment ces gens-là changent. Mais est-ce qu'il change vraiment ? C'est aussi la question, quoi. Au fur et à mesure des... Et comme certains de vous peut-être le savent, quand au fur et à mesure des voyages, se génère quelque chose qui est complètement fascinant, qui est au début, tout est très différent, et puis au fur et à mesure, tout est très similaire. Et il y a un basculement. Il y a un basculement dans le rapport, je dirais, sur ces archétypes, en fait, qui forment notre humanité. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que il y a une répétition qui se met en place, malgré le mouvement constant, une répétition de situation, une répétition de visage, une répétition de corps et de déplacement dans l'espace, quoi. Et du coup, aujourd'hui, je suis dans une telle intensité effectivement de vie, c'est-à-dire que vraiment, je passe 4 jours à Arles, je joue à Berlin vendredi, j'enchaîne sur un autre festival en Hongrie, j'en viens là, ça n'a aucun sens presque. Mais dans cette perte de sens-là, se noue quelque chose d'autre dans le rapport à la réalité, qui est que émerge, c'est très difficile à expliquer à mon avis avec des mots, mais émerge une autre forme de vision de notre société ou de notre spectacle de la société. Le regard que j'y porte, tout d'un coup, s'ancre sur la répétition de mêmes groupes humains, tu vois. Et donc, cette solitude-là, elle s'ancre à des situations qu'elle reconnaît. Parce que je veux parler, c'est de la reconnaissance. Tu n'es... je suis pas vraiment dans un rapport de... Je parlais de ça, de connaissance l'autre jour. Je pense que ce qui m'intéresse, c'est de la reconnaissance aujourd'hui, tu vois. Reconnaître le même, reconnaître ces situations-là et à continuer à s'y mouvoir et apprendre à encore mieux s'y mouvoir, tu vois, refaire le même mouvement en sachant très bien qu'il ne sera jamais le même, il est toujours un peu à côté. En fait, je fais le même film depuis 20 ans, tu vois, je fais le même mouvement et à force de triturer ce même mouvement, émane mon rapport à la réalité autour de moi, il est assez magique, voilà.
Mais ça me fait penser tes gestes et tes mots là pour évoquer ça, tout simplement à un rite chamanique quoi. On est dans la scansion, la répétition pour arriver à la transe quoi. Y a de ça ?
C'est ça.
Bon. Vincent, merci.
Merci à toi, Alex.
Vincent Moon, messieurs, dames. Merci.
Merci beaucoup.
Il nous reste effectivement ce petit quart d'heure d'échange possible.
Si vous avez des questions, je serais très heureux qu'on échange comme ça, là, ce qui vous passe par la tête, une réflexion, quoi que ce soit.
C'est par là, regardez, Aude a même un micro pour qu'on puisse vous entendre. C'est donc enregistré et ce sera retransmis. Si jamais vous ne voulez pas apparaître sur les enregistrements, n'hésitez pas à le signaler au moment où vous posez votre question.
Bonjour, parce que j'aime pas trop les micros, mais bon. Non, mais ce que je retiens en fait de ce que j'ai entendu, c'est circularité, mouvement. Et le peu des vidéos que j'ai vues hier, c'est ce que j'ai aimé en fait. C'est qu'il y a une manière de filmer où il y a une sorte de mouvement en fait. Voilà, enfin, je voulais juste dire ça. Et je sais pas comment le spectacle. Mise en espace, parce que moi je retiens beaucoup ça, c'est cette idée d'espace, de circulation, de d'échange, enfin voilà. Donc je voulais savoir quel était un peu le dispositif de...
Voilà, tu parles du dispositif du live cinéma,
voilà,
une fois.
C'est ça.
Écoute, la problématique certaine que j'ai avec l'outil que je travaille, c'est qu'on est dans un rapport de linéarité, dans un sens, en fait de frontalité, tu vois. Malgré tout, il y a un écran. Alors, je pourrais essayer d'en avoir 3 ou 360, tu vois. Donc, comment essayer de le triturer assez pour qu'à la fois, on puisse effectivement bouger avec, circuler avec, quoi, tu vois. C'est une question toujours ouverte, quoi, tu vois, je te dirais. Mais en tout cas, oui, mon travail, c'est une sorte de danse. Enfin, moi, je danse, en fait. C'est clairement, je danse avec la caméra. Et j'aime ce rapport-là à la musique. Je ne suis pas du tout dans un rapport, effectivement, de fixité. Et j'ai toujours pensé que cette manière de danser, de pénétrer en fait un groupe humain, bah, il me facilitait le fait d'y appartenir. Voilà, simplement, tu vois. J'irais voilà, danser pour être en connexion avec l'autre, quoi, simplement. Voilà. Et donc voilà, mon cinéma est basé là-dessus, certain. Ouais.
J'aime beaucoup d'ailleurs la photo d'illustration pour, je sais pas, ce soir ou ce moment.
J'adore,
vous avez
vu la photo sur le site.
Mais vraiment, t'as une position de danseur en fait.
Ouais, j'étais en train de danser avec des femmes en Ukraine. Alors je sais pas si les gens imaginent que du coup les femmes ukrainiennes vont se pointer ce soir, ce sera pas vraiment le cas. Mais qui sait quoi. Mais en tout cas, j'aime bien. Pour moi, il y a vraiment un rapport d'extase à la danse, ouais. Et comment. J'ai toujours traité la caméra comme une sorte d'outil qui me permette en fait de danser un peu plus, tu vois, et pas du tout comme comme quelque chose qui me met en extase, qui me sort d'une situation. Non, ça, c'est grâce à la caméra que j'ai pu aller plus près, tu vois. C'est une sorte de microscope sur la réalité. J'ai voulu voir de plus près, mais quand tu me vois filmer, tu te rends bien compte que je suis jamais collé à la caméra. Parfois, évidemment, je regarde ce qui se passe, mais très souvent, je suis là, quoi, et elle danse avec moi, tu vois.
Caméra comme ça, le mouvement est tellement libre et tellement.
Non, c'est une assez grosse caméra en fait. C'est une caméra qui a un monobloc, comme on dirait, qui est assez lourde et qui du coup est plus voilà une extension assez qui me donne un équilibre aussi de balancement dans ma manière de bouger. Voilà.
Oui, moi je voulais revenir sur des choses qui ont été évoquées de manière un peu anodine, mais qui me semble extrêmement importante par rapport au rapport que nous avons aujourd'hui à l'image, par rapport au rapport que nous avons à la fixation des musiques en images, et en partant du fait que, on a évoqué un tout petit peu, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, si on veut faire un documentaire musical, il faut, pour avoir les moyens de le faire, il faut prévoir quasiment à la minute près ce qui va être montré et ce qui va être dit. Ce qui me paraît, moi, complètement antinomique avec l'idée même d'un reportage où on est là pour découvrir ce que toi, tu fais. Et tu le fais, tu l'as expliqué avec certaine pudeur, mais j'ai l'impression que ton attitude, elle est assez politique, humaine et spirituelle, mais elle est aussi militante. Quelque part, il y a un acte très militant aujourd'hui, Et on est face à un problème énorme parce que, effectivement, avec toutes ces images qu'on peut voir de musique ou de n'importe quel aspect, on finit par en perdre la saveur, l'intérêt, le pourquoi du comment et les fondamentaux. Et je pense que ta démarche pose ces questions-là et veulent absolument souligner l'importance de pourquoi on fait ça, pourquoi c'est comme ça, sans forcément l'expliciter de manière trop prosaïque et académique, mais il y a une ordre de recherche de l'éthique, non ?
C'est bien, c'est une magnifique question. Tu dis quelque chose, tu dis non à la fin, pour rester le truc ouvert, quoi. Non, mais moi je suis oui. En fait, si tu veux, moi ça me paraît tellement naturel que c'est une manière d'aborder l'autre, d'aborder voilà, une recherche, d'être dans ce questionnement sur le monde. Mais aujourd'hui, comme tu l'évoquais, dans cette manière de faire des documentaires, à partir du moment où tu suis en fait la codification, la pré-production, l'écriture, toutes les étapes, tu te retrouves effectivement dans une sorte de manipulation du réel. Une manipulation, une mise à distance du réel, en fait, et effectivement, c'est extrêmement problématique et c'est pas du tout questionné aujourd'hui. Enfin, ça l'est très peu, excusez-moi. Je suis certain que les gens le questionnent. C'est très peu questionné dans le milieu du cinéma. Moi, je fréquente très très peu, voire pas du tout le milieu du cinéma, il est vrai, mais je suis étonné à quel point on est dans ces formes de production qui nous empêchent d'avoir un rapport organique, direct, intime, et à mon avis véridique, en fait, avec un moment. Donc voilà ma manière de faire, et j'ai fait effectivement plus de 1000 films sur toutes ces années, des petits films, parfois un peu plus grands. C'est un peu comme je les vois comme des petites graines, tu vois, des sortes de petites graines, comme ça, des petits essais. Ils sont pas du tout censés être parfaits, surtout pas d'ailleurs. Ils sont censés être volés au vent, ils sont censés être récupérés par l'un ou par l'autre et servir de matière à autre chose, tu vois. C'est pas du tout quelque chose qui est censé être définitif, raconter, expliciter quoi que ce soit. J'aime pas du tout l'idée qu'on puisse. J'ai pas envie de raconter des histoires aux gens. J'aime bien que les gens se racontent des histoires, par contre, tu vois. Et donc, comment tu établis un rapport, un canevas, et ça, là, je parle plus du cinéma, mais en fait, je dirais dans un geste artistique, comment tu établis un rapport pour que l'autre, le spectateur, l'auditeur, celui qui va recevoir, se sente. Ce mot un peu étrange, mais juste empuissanté. Tu vois, comment tu lui laisses le pouvoir d'imaginer à son tour, d'inspirer et de faire quelque chose de ça. Tu vois, c'est de la matière, ces sonorités-là, oui, je les ai capturées, c'est un affreux mot. Je les ai effectivement, elles m'ont traversé, j'essaie de les rendre. Et d'abord aux gens que j'ai filmés, mais aussi les faire recirculer. Dans cette recirculation-là, il y a la volonté que ça serve de matière à autre chose. Tu vois ? C'est pas du tout définitif, rien ne l'est. Et donc, ce rapport de circularité, encore une fois, de circulation, de modification constante, pour moi, il est complètement aligné avec une compréhension de l'évolution du réel, quoi. Et effectivement, moi, je suis beaucoup allé chercher, j'en parlais, dans les psychédéliques, dans mes rapports chamaniques, avec ce rapport au monde, quoi. Et ça m'a complètement déconstruit, en fait, les idées avec lesquelles j'ai grandi dans ma société, qui étaient qui sont des idées fermées en général sur elles-mêmes, quoi. Des idées où on va essayer effectivement de convaincre quelqu'un de quelque chose, tu vois. Je sais absolument pas de convaincre qui que ce soit. Juste ce qui m'intéresse, c'est de mettre mon doigt sur un truc, c'est de le modifier d'une manière assez intéressante pour qu'ensuite quelqu'un d'autre s'en empare et en fasse quelque chose d'autre. Voilà. Donc une sorte de une cascade permanente qui m'intéresse. Merci. À ce soir, madame. Ce soir, voilà. Filet, il y a des très belles choses à voir, c'est ça. Une dernière question, peut-être.
Oui, du coup, je suis tes aventures depuis quelques années via Petite Planète, avec plaisir.
Merci.
Es-tu devenu un ethnomusicologue sans diplôme, d'une certaine manière ? Et est-ce que tu es, quelque part, devenu aussi un pisteur pour certains chercheurs un pisteur, un référent pour certains chercheurs dans la musique.
Mais moi je cherche, c'est certain, je cherche. Tu vois. Après, le grade, le titre, tout ça, je pense que je m'intéresse à y échapper. Tu vois. Dans cette époque de, comme on dit, de repli identitaire, ce qui m'intéresse, c'est la multiplicité des possibles et donc toujours essayer d'échapper aux définitions. Quoi. Donc, oui, un jour je suis celui-là, l'autre jour je suis un autre. Et c'est aussi une belle manière, à mon avis, d'être. Effectivement, je n'ai pas eu tout de diplôme, je n'ai pas du tout ces formations-là. Et donc, encore une fois, je ne suis pas du tout dans l'idée, intéressé par l'idée de fixer les choses. Quoi. Et donc, pareillement, peut-être que ce travail peut servir d'archive, peut être utilisé comme cela, mais j'aime l'idée surtout qu'il échappe à une somme d'informations, tu vois. En fait, je m'intéresse beaucoup à la... On parle beaucoup de désinformation, tu sais, aujourd'hui. Mais en fait, non, revoyons les choses. J'aime beaucoup être désinformé dans le sens où être moins informé. Je m'intéresse beaucoup à être beaucoup moins informé sur le monde. Parce qu'à partir de ce moment-là, que je peux renouer avec ma propre imagination, tu vois. Donc, comment tu trouves les interstices qui vont permettre à chacun de réimaginer les choses différemment, quoi. Donc c'est pas en balançant une tonne d'informations, en fait, parce qu'on parle d'informations qui vont être traversées surtout de manière analytique, par le cerveau, tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, ce serait peut-être d'informer les autres parties du corps, tu vois. À partir de ce moment-là, je pense que l'imagination peut ressurgir et on peut reformuler des possibles. Voilà. Donc, c'est une manière, oui, politique d'être au monde et assez simple, en fait, et assez poétique autant que possible. Voilà, donc en tout cas, j'essaie de circuler. J'ai cette possibilité, attention, je vais lever la main encore une fois. J'ai cette possibilité, j'ai un passeport qui me permet de ça. Tu ne te sens pas, voilà, j'en ai conscience.
Je peux te demander peut-être pour conclure, et après on te laisse tranquille, il est la minute qui nous reste, à quel moment as-tu décidé de t'appeler Vincent Moon?
Au tout premier moment où j'ai commencé à faire des images, en fait, je me suis intéressé au masque, en fait, inconsciemment, et puis en fait j'ai compris pourquoi. Je pense que, encore une fois, dans cette idée de changer, de multiplier finalement des identités plutôt que d'en définir une claire et certaine, je me suis intéressé à un rapport très romantique. À l'époque, j'avais 18-19 ans. J'ai voulu mettre un masque. J'ai mis celui de Vincent Moon, qui est une figure littéraire assez intéressante que je vous laisserai découvrir par vous-même. Voilà.
Merci encore.
Merci à toi. Merci à toi. Merci. Et à ce soir, j'espère.
Ah oui, à ce soir, oui. 21h30 ici même.